Oui, bon anniversaire. Retrouvez celles et ceux qui ont fait notre web radio dès demain dans un documentaire, Notre Transistor, à écouter sur transistor.fr bien évidemment. Alors oui, Transistor fête ses 5 ans. Tout de suite, rejoignons Ager, Maëlys et une ancienne élève de l'école dans l'une des marques de la web radio de l'ENS, une émission de témoignage qui existe depuis notre première saison. Il y a une vie après normale, c'est à écouter tout de suite sur Transistor.
Merci Marie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Myriam Gallo, auteure et documentaliste, qui va essayer de nous prouver qu'il y a effectivement une vie riche et passionnante après l'ENS, à défaut d'être à peu près normale.
Mais non, il y a une vie après normale.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition 2.0 de Il y a une vie après normale, Yuvan pour les intimes ou Yuvan, on ne sait pas trop, le schisme est proche sur cette question. Bonjour Myriam Gallo, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous avez enseigné, vous êtes écrivaine, documentaliste et normalienne. Pardon. C'est un parcours qui peut sembler classique mais qui ne l'est pas tout à fait, donc on le verra par la suite. Vous avez fait une classe préparatoire au lycée La Canale. Vous avez ensuite intégré l'ENS de Fontenay-Saint-Cloud en 98. Vous avez donc vécu le grand déménagement de Fontenay-Saint-Cloud à Lyon, où vous vivez et travaillez encore. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous raconter ce déménagement de l'ENS à Lyon ? Parce que ça reste quand même une page importante de l'histoire de l'ENS. Qu'est-ce que ça a changé pour vous et qu'est-ce que ça a changé au sein de l'ENS ?
Alors, ça a tout changé. C'était, je dirais, assez malheureux d'être dans une promo qui faisait... C'était la promo 98 qui passait 2 ans à Fontenay et 2 ans à Lyon. Je dis que c'était assez malheureux parce qu'à la fin où on était à Fontenay, quasiment plus rien ne se passait. On était dans le carton. Et quand on est arrivé à Lyon, tout était à construire. Donc on était aussi dans les cartons. Après, ça, l'école est complètement différente de ce qu'elle était à Fontenay. À Fontenay, c'était vraiment une grande école, mais une petite grande école. Très familiale, assez repliée sur elle-même, je pense. Et là, maintenant, elle me semble avoir pris la dimension d'un vrai campus étudiant, avec beaucoup de choses qui se passent.
D'accord.
Elle a perdu un petit peu ce côté chaleureux qu'elle pouvait avoir à l'époque. Mais je pense que c'était nécessaire en même temps. Donc, c'était un énorme changement. Hein, ça.
D'accord. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été une génération sacrifiée, disons, ou
Je pense qu'effectivement, ouais, c'est assez mal tombé. Je ne m'en rendais pas compte avant d'intégrer, parce qu'on savait que l'école allait déménager en 2000. Je ne m'en rendais pas compte que ce serait difficile d'arriver juste à ce moment-là. Et de fait, je pense qu'on n'a pas pu profiter à fond de tout ce qu'offre l'école à présent.
L'ENS, pour vous, c'était une voie qui allait de soi lorsque vous étiez en classe prépa. Est-ce que l'enseignement, c'est quelque chose qui vous attirait déjà, enfin qui vous attirait à l'époque ou...
Alors l'ENS, oui, l'enseignement, je n'y pensais pas. C'est-à-dire que quand j'étais en classe prépa, enfin quand j'étais même avant en lycée et que j'ai voulu aller en classe prépa, je voulais intégrer l'ENS, mais je ne pensais pas du tout en termes de débouchés que plus tard je serais enseignante. Pour moi, je voulais intégrer l'ENS, c'était tout, c'était une fin en soi. D'accord. Et comme beaucoup de normaliens, quand je suis arrivée à l'ENS, d'un coup je me suis dit, il va falloir que j'enseigne. Et là, c'est posé vraiment la question, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire et dans quelles conditions ?
D'accord. Vous vivez toujours à Lyon. Juste pour revenir très rapidement sur le déménagement de Fontenay-Saint-Cloud à Lyon, est-ce que le fait d'être venu à Lyon avec l'ENS, ça fait en sorte que vous êtes resté à Lyon plus tard ? Est-ce que ça vous a ancré géographiquement ou est-ce que vous seriez, si c'était ailleurs, vous seriez resté ailleurs, par exemple ?
Bon, il faut dire que je suis originaire pas de Lyon, mais de la région Rhône-Alpes. Ah, oui. Donc j'ai beaucoup de familles dans la région. Et quand j'étais en lycée, c'est clair que pour moi, il fallait que j'aille à Paris. J'avais une idée très malsacienne en tête, je pense, que pour faire des études, pour faire quelque chose de sa vie, il fallait aller à Paris. Et quand l'école a déménagé à Lyon, j'ai déménagé avec l'école. Et après, je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de retourner à Paris ou est-ce que j'ai envie de rester sur Lyon ? Je pense que j'ai assez longtemps hésité. Je suis retournée à Paris vivre un moment. Après, je suis revenue sur Lyon. Et finalement, Lyon, pour moi, m'a semblé un compromis entre la proximité de la famille et le fait que ce soit une grande ville avec beaucoup d'activités culturelles.
D'accord.
Mais effectivement, c'est le fait que l'école soit venue à Lyon qui fait que j'y habite maintenant. Sinon, je pense que j'y aurais jamais pensé.
Vous travaillez actuellement en collège, donc en ZEP, où vous êtes documentaliste. Alors, c'est un choix de carrière inédit, ou du moins assez inhabituel pour une normalienne qui est par ailleurs agrégée de lettres modernes. Enfin, d'autant plus que vous avez déjà aussi enseigné en lycée. Est-ce que, en plus, le collège peut susciter certaines angoisses chez les jeunes professeurs et chez les normaliens? Et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir travailler avec de jeunes adolescents?
Alors, c'est un long parcours. C'est-à-dire que c'est sûr que si on m'avait dit ça quand j'étais à l'école, j'aurais pensé non, ça me plairait pas, j'ai pas envie de faire ça. Après, j'ai enseigné effectivement pendant pas mal d'années, 7 ans, je crois, en lycée. Et j'ai commencé à écrire pour les enfants, d'abord à lire pour les enfants, ensuite à écrire pour les enfants, et à m'intéresser de plus en plus à ce public. Donc j'ai été d'abord en collège en tant qu'auteur, j'ai été invitée dans les différents collèges, et de fil en aiguille, je me suis dit que j'aimerais travailler avec ce public.
D'accord.
Qu'est-ce que vous pourriez dire aux normaliens qui seraient peut-être angoissés à la perspective de se retrouver face à une classe de collégiens? Parce qu'on décrit souvent les collégiens comme un public assez difficile, enfin... En tout cas pour les élèves, c'est une période de la vie assez compliquée. Autant en lycée, ils sont plus ou moins intéressants parce qu'on peut leur raconter, autant en collège, c'est un peu plus difficile.
Je nuancerai quand même ce que vous dites sur le lycée déjà. Malheureusement, ils sont souvent assez peu intéressés par ce qu'on leur raconte. Contrairement à l'image que, moi, que je gardais en tant que lycéenne, l'idée que j'avais du lycée, j'ai eu un gros choc quand j'ai commencé à travailler en lycée parce que ça s'avérait très différent. Et après, c'est vrai que je suis en collège en tant que documentaliste, j'ai jamais vraiment enseigné, donc je sais pas vraiment en tant qu'enseignante ce que ça donne. Je pense que c'est pas forcément facile, effectivement. Ce qui est difficile quand on sort de l'ENS, c'est qu'on a une sorte d'entre-soi malgré tout à l'école, avec les universitaires aussi, et on a un certain langage. Et moi, rien qu'en arrivant au lycée, j'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas. Je parlais, les élèves ne comprenaient pas ce que je disais. Déjà, il a fallu pas mal de temps pour que je m'adapte à leur niveau. Et je pense qu'en collège, le choc est encore plus fort. C'est encore plus flagrant qu'il faut s'adapter à ce qu'ils sont, à ce qu'ils savent. Même là, je suis choquée tous les jours de ce qu'ils ne savent pas. Par exemple, on a une horloge avec des aiguilles au CDI. On a des élèves qui viennent nous demander l'heure parce qu'ils ne savent pas lire l'heure sur l'horloge.
D'accord. Et pour revenir sur votre expérience en lycée, comment est-ce que vous avez réussi à vous adapter? Parce qu'au début, ça peut être un petit peu rude, comme vous nous l'avez dit. Vers qui est-ce que vous vous êtes tournée? Est-ce que vous trouvez qu'on ne vous forme pas assez à la pédagogie concrète, au terrain, on va dire ça comme ça, lorsqu'on passe l'agrégation ou
Oui, clairement, ça c'est pas une nouvelle. C'est un métier qu'on doit apprendre sur le tas, avec l'expérience. Je pense que j'ai beaucoup été aidée par ma tutrice, ma maître de stage, l'année où j'ai été stagiaire, donc ma première année de lycée. Et puis sinon, en discutant avec les collègues, et puis en tâtonnant, en faisant des erreurs. Après, l'année d'après, on sait que sur tel texte, ils ne comprennent pas plein de mots. Donc l'année d'après, on va faire différemment pour prendre le temps de leur expliquer. Et puis petit à petit, vraiment au fil du temps, on s'adapte à son public. Puis je pense qu'en plus, c'est très différent d'un lycée à l'autre. C'est d'ailleurs très intéressant au niveau sociologique, parce qu'on peut se trouver... on peut se retrouver... J'ai travaillé moi pendant 7 ans à Bourg-en-Bresse, c'était un public plutôt rural. Vraiment particulier. Au début, il a fallu du temps pour m'adapter, pour comprendre exactement leur fonctionnement. Et puis savoir ce qu'ils savaient, ce qu'ils ne savaient pas. Mais bon, je pense qu'il y a une grosse différence entre être au lycée Ampère au centre de Lyon et au lycée Avon-Velin, par exemple. Pas du tout pareil.
Aujourd'hui, vous êtes documentaliste. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier et quelle est, à votre avis, la différence entre être face à une classe et conseiller des livres à des collégiens?
Alors déjà, je dirais que le métier de documentaliste, le conseil de livres, c'est 1% du métier.
Oui.
On fait beaucoup d'autres choses. Et ce qui me plaît, c'est que c'est très varié. Et aussi, on a un relationnel aux élèves qui est différent. En tant qu'enseignant, on a quand même une relation aux élèves qui va dans le sens de l'autorité, mais en tant que documentaliste aussi, mais qui va aussi dans le sens de mettre des notes, de décider pour eux de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, etc. Je trouve qu'en tant que documentaliste, on a une relation un peu plus... un peu plus délié de ces contraintes qui sont celles du système scolaire français. Et on est un peu plus libre de construire des relations avec les élèves différentes. Moi, je m'y sens beaucoup plus à mon aise.
Très bien.
Il faut dire que vous avez un parcours qui peut surprendre. Donc, après votre agrégation, vous avez pris une année de césure pour travailler chez Ubisoft, si je ne me trompe pas. Donc, dans une entreprise qui crée et développe des jeux vidéo. Donc, c'est assez surprenant venant d'une normalienne. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce détour professionnel? Qu'est-ce qui l'a motivé et qu'est-ce que vous en avez tiré de cette expérience?
Oui, donc c'était après avoir passé l'agrégation. Et j'avais l'impression que l'école, c'était un peu une tour d'ivoire et qu'on n'avait pas trop conscience de ce que c'était que le monde de l'entreprise, que le travail d'une manière générale. Donc j'ai eu envie de faire une autre expérience, de voir autre chose. Voilà. Après, l'idée que j'avais en tête, c'était plutôt de travailler dans le journalisme. Ouais. Et puis par hasard, j'ai trouvé ce poste qui était en communication interne, donc un peu différent. Mais ça a été une expérience intéressante.
Et finalement, vous n'avez pas voulu poursuivre dans la voie de l'entreprise privée? Vous avez préféré revenir à... Qu'est-ce qui vous a déplu ou
Qu'est-ce qui m'a déplu? Alors, j'ai eu cette impression d'être prisonnière.
D'accord.
C'est-à-dire d'avoir des horaires de travail de bureau, de faire tous les jours 9h, 19h, d'émerger un peu le week-end et hop, de replonger pour la semaine. Et je trouve que quand on a une grande chance quand on est dans l'enseignement, c'est qu'on n'a pas ces horaires-là. On a des demi-journées libres en semaine, on a des vacances scolaires, il y a une certaine liberté. Et puis en plus, on travaille de manière plus indépendante.
Et on fait soi-même son cours, on construit quelque chose finalement, ce qu'on ne fait pas forcément dans le privé.
Exactement.
Concrètement, vous avez travaillé dans la communication interne chez Ubisoft. En quoi est-ce que ça a consisté
Ubisoft, c'est un groupe international donc qui était présent à l'époque dans une vingtaine de pays. Et donc, je travaillais au siège. Donc, on mettait en place les opérations de communication interne, donc c'est-à-dire à destination des employés d'Ubisoft. Mais pour que toutes les filiales du groupe puissent communiquer entre elles et D'accord. savoir ce qui se passe à Montréal quand on est sur Paris, par exemple.
Très bien. Donc, ce stage a eu lieu à Montreuil, si je ne me trompe pas. Puis ça a été l'Ardèche, vous avez suivi un DESS. Donc pour nos auditeurs de moins de 35 ans, disons, il s'agit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées. C'est un diplôme professionnalisant de niveau Bac plus 5. Et donc vous avez choisi de ne pas vous lancer dans un doctorat après l'agrégation pour vous spécialiser dans la réalisation de documentaires. Alors est-ce que vous pouvez nous vous expliquer ce choix? Parce que le doctorat, ce serait la voie, disons, normale pour un normalien. Mais vous n'avez pas choisi de vous engager dans un doctorat. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui. Alors, j'ai eu une expérience de travail de recherche. Alors, je suis vieille, je suis désolée. C'était à l'époque où je faisais ma maîtrise. Donc, c'est l'équivalent, je crois, du Master 1 maintenant.
Oui, c'est ça.
Et donc là, c'était principalement un travail de recherche. Donc, on faisait un mémoire de maîtrise sur l'année. Je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment faite. J'avais l'impression de travailler trop dans mon coin, trop pour des spécialistes, sur des sujets trop pointus. Et que ça me convenait pas, que j'avais besoin d'avoir quelque chose de plus ouvert et qui permette d'être compris par plus de personnes. Et j'ai eu une expérience comme ça, un peu négative, mais qui a été assez décisive. Quand l'ENS était encore à Fontenay, il y avait parfois des journées d'études organisées sur place. Donc il y a eu une journée d'études sur la littérature, je ne me souviens plus sur quel thème d'ailleurs. Mais ce dont je me souviens, c'est que j'avais trouvé que les participants à cette journée d'études étaient tristes. Ils avaient l'air gris, ils avaient l'air fermés, ils avaient l'air vraiment... Et je me suis dit non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire autre chose de ma vie.
Voilà. C'est aller prendre le soleil en Ardèche.
Par exemple.
Est-ce que vous pourriez nous parler de documentaires, ou du moins des premiers documentaires que vous avez faits? De quoi ça traitait? Qu'est-ce que vous vouliez exprimer par la voie documentaire?
Bon, malgré tout, j'en ai pas fait beaucoup des documentaires. J'ai surtout fait des films d'études l'année où j'ai fait le DESS.
D'accord.
Et le film de fin d'études en fin d'année. Ce film de fin d'études, il s'appelait Traverse. En fait, je l'ai tourné entièrement dans le train entre le Puy-en-Velay et le Lyon, qui à l'époque était un vieux train. Ces vieux trains ont disparu. Donc ceux qui sont actuellement ont plus de confort et moins de charme. Exactement comme le NES ici, par rapport à le NES. Parce qu'en fait, l'Ardèche est le seul département de France où il n'y a plus de train, il n'y a aucun train.
Bon,
et,
bah,
ouais. Et donc c'est pour ça que du coup j'ai eu envie de m'intéresser au train, enfin, chercher. Et donc j'ai tourné avec une toute petite caméra dans le train, à l'insu des gens hein, la plupart du temps. Je les ai filmés, donc j'ai capté des petites scènes de vie dans le train.
Très bien. Et donc vous avez dit que ce qui vous gênait dans la recherche, en tout cas en littérature, c'était cette impression de vous adresser à des spécialistes et que vous vouliez vous adresser à un plus grand public. Et donc c'est un peu cette même démarche qui réunit votre écriture, le fait que vous écriviez des livres pour enfants ou pas pour enfants et que vous avez réalisé également des documentaires.
Alors, c'est vrai que mon écriture est très facile, simple. Je fais des phrases courtes, c'est facile à lire. Donc, effectivement, il y a l'idée de que ça puisse toucher le plus grand nombre, pas seulement des spécialistes ou des personnes qui ont fait suffisamment d'études pour pouvoir lire des phrases compliquées, etc. Je pense que plus profondément, que ça me correspond, en fait, que je suis comme ça au départ. Je suis originaire de Saint-Étienne, d'un milieu quand même relativement simple. Et ça me paraissait, c'est ce que j'avais envie de faire.
Et vous aimez le fait de produire quelque chose d'original parce que, on ne veut pas offenser nos amis chercheurs qui nous écoutent, mais on n'est pas totalement dans, c'est tout un débat, mais on n'est pas vraiment dans une démarche créatrice lorsqu'on fait la critique ou lorsqu'on fait de la recherche. Alors que là, lorsque vous écrivez des livres ou que vous réalisez des documentaires, c'est une démarche plus active à votre avis ?
J'aurais du mal à dire, parce que je ne souhaite pas non plus offenser les personnes qui font de la recherche. Parce que même si ce n'est pas une voie que j'ai choisie, ça me paraît tout à fait intéressant.
Respectable.
Et respectable. Effectivement, je pense que quand on écrit un livre, on est dans une démarche créatrice, on part de rien. Alors qu'un chercheur, il va parler de quelque chose, au sujet de quelque chose. Donc ça, c'est une grosse différence. J'ai l'impression aussi, quand j'écris, notamment pour les enfants, d'aller chercher, d'oublier en quelque sorte tout ce que j'ai pu apprendre pendant mes études et d'aller chercher loin dans la sensibilité, dans le ressenti, d'être vraiment sur un autre registre.
Est-ce que vous connaissez l'angoisse de la page blanche en tant qu'auteur
C'est un peu un fatidique. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que ça existe vraiment
Pour moi, ce que je ressens parfois, et je pense que beaucoup d'écrivains le ressentent, c'est qu'on a l'impression d'avoir des phases où on n'y arrive pas. On ne trouve rien, on n'a pas d'idée. Et puis d'autres phases, au contraire, très riches. Après, me mettre devant l'ordinateur et avoir peur. Enfin, je ne sais pas exactement ce que c'est que l'angoisse de la page blanche. Si ça désigne ce phénomène, oui, effectivement, je le ressens.
Donc, on l'a dit, vous ne faites pas que conseiller des livres, vous en écrivez également. En 2010, vous avez publié votre premier ouvrage, qui est une nouvelle paru aux éditions D'un noir si bleu, intitulé On n'arrête pas le progrès, puis un recueil de nouvelles intitulé Les corps suspendus. Et dans la première, vous faites le portrait d'une société dont la marche destructrice vers le progrès semble irréversible, et qui vous semble critiquable en tout cas. Et dans votre recueil, vous explorez des figures archétypales de notre époque. Donc en filigrane, peut-on dire que vos œuvres sont traversées par un regard réaliste ou désabusé ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous correspond pas ?
Si, tout à fait. Oui, tout à fait. Réaliste et désabusé. Enfin, désabusé, peut-être c'est exagéré de dire désabusé. Critique, oui. Oui, désabusée dans le sens où je suis assez sensible au fait que beaucoup de vies se passent sans qu'on s'intéresse vraiment à elles, en fait. Donc oui, dans ce sens-là.
Très bien. Et est-ce que ça rappelle un peu votre démarche documentaire dans votre film Traverse, lorsque vous filmiez les gens à leur insu ? Est-ce que c'est un peu ce même sentiment que vous voulez exprimer à la fois en faisant des portraits types, donc je crois qu'il y a l'étudiante qui cherche un logement, l'agriculteur, le marin, et en filmant les gens dans leur vie de tous les jours.
Oui, d'une certaine manière, ça se rejoint. Alors, je suis pas vraiment d'accord sur le fait que ce soit des portraits types. Moi, j'avais pas du tout cette idée en tête. J'avais au contraire l'idée de, à chaque fois, de construire un personnage, mais d'imaginer une personne dans sa singularité. Que ce soit pas justement quelqu'un de représentatif ou de...
D'accord. Mais enfin, vous dessinez des figures, mais c'est pas pour autant que ce sont des... c'est pas des types, voilà. C'est plus des figures, mais pas des types.
C'est effectivement ce qui est marqué sur la quatrième de couverture, que ce sont des... Enfin, ça pourrait faire penser que ce sont des types. Ah, mais d'accord. Je pense que c'est vraiment pas ce que j'ai voulu faire.
D'accord.
Et j'espère que c'est pas ce qu'on peut lire dans les nouvelles.
Et donc, comment est-ce que vous êtes passée de l'écriture pour
de nouvelles
qui s'adressent au grand public, pas particulièrement spécialisées ou adressées à un public jeune, et avec des thèmes qui peuvent paraître, on va pas dire lourds, mais qu'on ne s'attend pas à retrouver dans des livres pour enfants, à justement à écrire des livres pour enfants?
Après, je dis ça un peu sous la forme d'une boutade, mais je suis spécialisée dans les livres enfants sur des thèmes difficiles. Parce que L'heure des chats, ça parle du cannabis. Après, j'écris Le pays à l'envers. On va dire le thème n'est pas très compliqué, ça va encore. Mais le dernier que j'ai écrit, c'est 160 générations. Il est sur la question de la sexualité, mais pour les enfants de 11-12 ans.
D'accord.
Donc malgré tout, je pense que je reste toujours dans des thématiques comme ça qui peuvent paraître difficiles à aborder, en tout cas auprès d'un jeune public.
Alors, donc, pour rappeler à nos auditeurs, vous avez publié 760 générations, Le pied à l'envers ou encore L'heure des chats, qui a reçu le 23e prix incorruptible, qui est un prix de littérature jeunesse décerné à de jeunes lecteurs. Qu'est-ce que ça suppose comme exercice intellectuel que d'écrire pour des enfants? Est-ce que c'est... Parce que ça peut sembler assez loin de ce qu'on a pu exiger de vous à l'ENS ou en prépa.
C'est clair. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris pour les enfants, je suis obligée d'oublier tout ce que je sais. Et d'être vraiment à l'écoute d'une sensibilité, de souvenirs aussi. Et à la limite, quand j'écris pour des enfants de 10 ans, il faut que j'imagine avoir 10 ans moi-même.
Ah, vous mettez vraiment dans la tête du jeune lecteur qui va se colter finalement au livre et qui va... Est-ce que c'est pas un peu handicapant du coup quand on écrit une phrase de toujours se questionner en fait sur l'accessibilité de la langue et... Parce que je sais que en regardant les informations sur les livres jeunesse, il y a des lexiques, il y a des...
C'est une démarche assez pédagogique, en fait. Non.
Okay, bon, j'espère pas, en fait. Ah. J'espère que c'est surtout plaisant à lire.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a toujours, malgré tout, à l'arrière-fond, l'idée de que ça apporte quelque chose au lecteur. Donc, si c'est pédagogique dans ce sens-là, oui. Je veux dire, une fois qu'on a fermé le livre, une fois qu'on a lu l'histoire, il y a quelque chose qui nous a fait un peu avancer. On est un tout petit peu différent de ce qu'on était avant de le lire.
Très bien, merci.
Donc, juste quelques petites questions de conclusion pour mieux vous connaître. Est-ce que vous pourriez nous confier votre meilleur souvenir à l'ENS?
Comme aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Transistor et que chacun raconte des souvenirs, alors on s'est dit qu'on vous demanderait.
Alors, mon meilleur souvenir, c'était quand l'ENS était encore à Fontenay-aux-Roses. Je ne sais pas si cette tradition existe encore. Non, attendez, je vais vous expliquer. Si cette tradition existe encore, il y avait une garden party, l'ENS.
Oui, oui, ça existe encore.
Et donc, il y a eu la dernière garden party à Fontenay avant que l'école arrive à Lyon. Et cette soirée m'a laissé un souvenir très fort. Je me souviens très bien que c'était une impression d'harmonie et peut-être un mélange de mélancolie parce qu'effectivement, quelque chose finissait. Et puis de gaieté parce que malgré tout, c'était une fête et qu'on allait déménager à Lyon. En tout cas, j'en ai un souvenir comme ça, très, très présent. Très, très présent.
Et votre pire souvenir, si vous en avez un?
Alors, mon pire souvenir, c'était pendant qu'on préparait l'agrégation. Parce qu'on devait faire des exposés. Non, c'est pas très surprenant. On devait faire des exposés sur les œuvres littéraires qu'on avait au programme. Et donc, pour le programme du XVIIIe siècle, on avait entre autres Le fils naturel de Diderot. Et je me souviens d'un exposé qui a dû être fait par un camarade de classe sur l'action dans le fils naturel. Et l'enseignant, qui s'appelait Jean Golzinck, mais qui doit être à la retraite depuis parce qu'il était âgé, l'a vraiment lui est rentré dedans très violemment en disant que c'était en gros que c'était nul, que c'était indigne d'un normalien, etc. Et j'avais jamais vu ce genre d'attitude à l'école. Et ça m'a vraiment marquée parce que qu'on voit ça au collège, au lycée, éventuellement à l'université, d'accord. Mais à l'ENS, j'ai jamais vu qu'il y ait ce type de relation entre les enseignants et les élèves.
Très bien. Bon, bah, avis aux futurs agrégatifs.
Agrégatifs, vous êtes prévenus.
Préparez-vous. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un mot de fin, Maëlys.
Merci beaucoup, Myriam Gallo, d'avoir accepté notre invitation pour ce 5e anniversaire de Transistor. On va également remercier Thomas et Marie pour leur aide à la préparation de cette version 2.0 de Yuvan ou Yuvan. On espère qu'on a pu faire honneur à Caroline et ses acolytes, les précédents présentateurs de l'émission. Et donc, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de...
Il y a une vie après normal. Tous en cœur.
Tous en cœur.
Mais que d'enthousiasme dans le studio.
Et on laisse la place à Marie.
C'était les yeux des oreilles. Il est 15h sur Transistor, c'est l'heure du Flash Info. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, rebonjour à tous. À la une de l'actualité de ce mardi 2 décembre, l'Assemblée nationale va se prononcer sur le sujet de la reconnaissance d'un État palestinien. Le vote aura lieu à 16h15, après les traditionnelles questions au gouvernement. Sauf surprise, cette reconnaissance devrait être votée, mais sans les voix de la droite. Rappelons qu'il ne s'agit que d'une résolution sans les non contraignantes, c'est-à-dire qu'à travers ce texte, il n'y a qu'une invitation faite par le Parlement au gouvernement de reconnaître un État palestinien. Un texte identique sera examiné le 11 décembre au Sénat. Toujours en France, c'est aujourd'hui que s'ouvrent les assises de l'économie de la mer et du littoral à Nantes. Pour l'occasion, le Premier ministre fait le déplacement et sa visite risque d'être chahutée hein, parce que rien moins que 7 rassemblements de mécontents auront lieu, notamment les pêcheurs inquiets par les quotas européens. À Nantes, Manuel Valls s'est voulu rassurant. Les mécontents, il y en a aussi à Hong Kong, c'est la révolution des parapluies, enfin... C'était la révolution des parapluies. Les militants pro-démocratie se divisent hein, quant à la forme de leur action après les heurts de dimanche soir et la répression policière de lundi. Les trois fondateurs d'Occupy Central, principal mouvement de cette opposition populaire, viennent d'annoncer qu'ils allaient se rendre à la police mercredi et ont appelé les manifestants à évacuer les sites qu'ils occupent depuis plus de 2 mois. Ils veulent ainsi montrer qu'ils respectent l'état de droit quand le gouvernement, lui, affiche un visage répressif. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cela et des voix s'élèvent pour continuer la mobilisation. Si le conflit se complexifie à Hong Kong, vous le voyez, en Ukraine, en revanche, il semble s'apaiser. Le gouvernement ukrainien et les séparatistes pro-russes de la région de Lugansk ont conclu un cessez-le-feu total sur la ligne de front. Il entrera en vigueur à partir du 5 décembre. La décision daterait du samedi 29 novembre, mais elle a été officialisée seulement ce matin. Autre bonne nouvelle économique maintenant, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a rencontré lundi son homologue indien. Au menu, des discussions, la question des rafales et, petit miracle, ils se sont mis d'accord pour surmonter leurs différends en vue de la finalisation d'un contrat estimé à 12 milliards d'euros portant sur la vente de 126 rafales. S'il aboutissait, il s'agirait du premier contrat à l'exportation pour les Rafales, dont le lancement date de 1989. Miracle, je disais, Marie.
Merci Thomas. Le 2 décembre, n'oublions pas que c'est aussi l'anniversaire de Transistor. Écoutons tout de suite Thibaut Becchini, Lola Salem et Jocelyn Dutil.
5 ans, c'est un chiffre rond qui est un beau chiffre. Donc la prochaine étape, c'est 10 ans et je n'ai pas de doute sur l'avenir de Transistor. Et je pense que Transistor arrivera... à l'étape des 10 ans sans aucun problème. Et donc je souhaite un bel avenir à Transistor. Et joyeux anniversaire Transistor.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Transistor. Joyeux anniversaire.
La Marilyn Monroe.
S'il y avait un vœu à faire quand même sur les 5 prochaines années, j'ai pas trop de doutes non plus maintenant sur on va dire l'avenir, mais c'est vraiment de toujours garder cet esprit fondateur qui concilie à la fois le, on va dire, côté un peu pro, puis le côté décalé, le côté camaraderie, parce que c'est en avis ce qui fonde réellement l'état d'esprit de Transistor. Joyeux anniversaire Transistor.
Oui, bon anniversaire. Retrouvez celles et ceux qui ont fait notre web radio dès demain dans un documentaire, Notre Transistor, à écouter sur transistor.fr bien évidemment.